Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Dimanche prochain, c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié et cette année, le Saint-Père a choisi d'intituler son traditionnel message « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés ». Peut-être pour mieux soulever l'implication que nous sommes tous appelés à avoir dans la construction d'un avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure personne. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette question des migrants et la peur ou l'indifférence qu'ils peuvent susciter. Et pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir François Roméo Ntamag, ancien migrant naturalisé français et cofondateur de l'Association des refoulés de l'Afrique centrale au Mali. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et juste à côté de lui, Sébastien Combre, qui est délégué épiscopal à la diaconie au sein du diocèse de Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Dans cette première partie, pour vraiment débuter cette émission, j'aimerais me tourner vers vous, François Roméo. Aujourd'hui, vous êtes installé depuis une dizaine d'années dans le Gers, mais votre parcours, il est tout autre parce que vous avez quitté le Cameroun alors que vous étiez encore mineur.
Oui, je suis parti de Cameroun en 2003, j'avais 15 ans. Voilà, c'est... Contrairement à ce que les gens pensent, d'habitude, c'était pas parce qu'on avait trop faim. Voilà, c'était à un moment donné par manque de perspective aussi, parce que j'étais orphelin de père, qui était le pilier de toute la famille. Donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans argent parce que j'avais une mère au foyer qui ne travaillait pas. Nous sommes 6 garçons, donc j'ai 5 frères. Et j'étais en classe de seconde en 2003, donc il a fallu faire un choix. C'était soit de rester et devenir soit brigand ou alors continuer à commettre les petits larcins que je faisais à longueur de journée pour apporter un peu d'argent à la maison ou alors partir quelque part. Pas nécessairement en Europe, mais partir quelque part, dans un autre pays, voilà, essayer de travailler pour gagner de l'argent et aider ma famille, quoi.
Ça n'a pas été trop difficile, ce départ, par rapport à votre famille ?
C'était très compliqué dans la mesure où, voilà, nous avons grandi un peu dans ce cocon familial. Et c'était d'ailleurs très, très difficile d'aller en vacances chez une tante ou chez un oncle parce que, voilà, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais nos parents nous ont vraiment surprotégés à un moment donné. On ne manquait de rien. Mon père, il était transitaire à l'époque au port de Douala, au port autonome de Douala. Donc, il avait quand même de très, très bons revenus. Il était le pilier de la famille, je l'ai dit tout à l'heure, et... On avait plutôt des cousins, des cousines, chaque vacances qui venaient à la maison, on se retrouvait parfois à 15 à 20. Et une fois que c'était la rentrée scolaire, ben, chacun repartait avec un sac plein de cahiers, des livres pour pouvoir retrouver ses parents, quoi. Donc c'était très compliqué parce que ma mère ne savait pas si j'allais revenir. J'étais très jeune. Je n'avais pas été auparavant très confronté aux épreuves de la vie. Et il fallait que j'aborde le voyage. Pour moi, je ne savais pas qu'il fallait passer de personne normale à clandestin. Pour moi, dans ma tête, ça n'existait pas. C'était juste, voilà, prendre un bus, une voiture, traverser une frontière, arriver dans un autre pays, frère ou ami, trouver du boulot et pouvoir gagner de l'argent, quoi. Donc, je me rappelle encore le jour où je l'ai dit à ma mère, ben, j'ai préparé mon voyage pendant des mois et je lui avais rien dit, mais mes frères étaient au courant. Et le soir où je lui ai dit, ben, elle n'a même pas voulu me répondre. Elle est partie. Et quelques jours après, voulant se rassurer si j'étais vraiment décidé à partir, elle m'a reposé la question à savoir si j'étais partant ou si j'étais accompagné de quelqu'un d'autre et autres. Je lui ai dit non. Il fallait que je parte, quoi, parce que mon pays d'origine au Cameroun, voilà, qui m'avait tout donné, voilà, à l'époque, mais n'avait plus de perspective pour moi. Est-ce ma faute? Je ne pense pas, parce que voilà, généralement, on a tendance à renvoyer la faute sur ceux qui partent, sans au préalable aller à la base. Parce que voilà, il y a un proverbe qui dit chez moi, faut pas regarder là où on tombe, faut regarder là où on se cogne le pied. Voilà, j'ai buté quelques années plus tard aux portes de Ceuta et de Melilla. Lorsque nous avons été rapatriés au Mali, d'aucuns disaient que c'était de notre faute, qu'on n'avait qu'à rester au pays, se battre avec les autres. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Certes, il y a des personnes qui s'en sortent, mais il faut toujours compter sur l'appui extérieur de quelqu'un. Alors, je n'ai pas voulu attendre. J'ai voulu prendre le taureau par les cornes. J'ai voulu être acteur de mon propre développement. J'ai choisi de partir.
Vous avez quel âge quand vous êtes parti?
Mais j'avais 15 ans.
Aujourd'hui, vous regrettez pas cette décision?
Non, je regrette pas dans la mesure où le parcours migratoire ou alors ce périple-là fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que, en plus des valeurs que m'ont inculquées mes parents, j'ai rencontré tout au long de ce parcours de très bonnes personnes, de très belles âmes, beaucoup de solidarité.
C'est pas le cas de tout le monde.
Voilà, beaucoup de solidarité, des familles que je ne reverrai peut-être plus. Je suis passé à des endroits où je rêvais jamais passer. J'ai vu aussi beaucoup d'atrocités. Voilà, parce que tout ça va de pair. Mais je ne regrette pas, quoi. Je ne regrette pas parce que j'ai pu, pendant des années, aider ma famille. J'ai pu m'occuper d'une mère qui avait un cancer et qui avait une sclérose en plaques pendant 10 ans. Je pense que serait resté au Cameroun, je n'aurais pas été capable de lui envoyer 500 euros chaque mois pour pouvoir se soigner. Donc, je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, moi personnellement, je le referais. Mais s'il fallait qu'un autre jeune reparte, je lui dirais de mieux s'armer pour pouvoir partir. Parce que, pourquoi mieux s'armer? Parce que moi, je suis parti, je n'avais aucune formation professionnelle. J'étais en classe de seconde, voilà, une classe littéraire. Et tout au long du parcours, oui, moi, j'ai usé parce que j'étais footballeur. J'arrivais, je jouais dans des petits clubs, je gagnais un peu d'argent et j'avançais. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. Mais si j'avais eu une formation professionnelle avant de partir, je pense que j'aurais commencé à gagner ma vie plus tôt et j'aurais peut-être évité certaines autres blessures que j'ai eues tout au long de mon parcours. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour la formation professionnelle dans les pays d'origine, avec les associations que j'ai créées, pour dire, on a le droit de partir, ça fait partie de la vie. L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit, toute personne a le droit de partir. Mais aujourd'hui, avant de partir, il faut s'armer, en se disant que ben, si j'arrive dans un pays, ou alors si j'ai une formation, je peux être soit acteur de mon propre développement dans mon propre pays, ou dans un pays tiers, dans lequel je vais également contribuer aussi pour bâtir ce pays et le rendre plus fort, tel est mon cas aujourd'hui.
Parce que c'est vrai que votre idée de base, c'était le football, votre rêve d'enfance, c'était le football, c'est pour ça que vous avez décidé de partir.
Oui, je rêvais, hein, comme beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui ou avant, être footballeur professionnel. Je me débrouillais très bien. Mais sauf que, voilà, à l'époque, le football en Afrique n'était pas professionnel, même aujourd'hui, il ne l'est pas encore. Il faut aller dans les pays du Maghreb pour avoir un peu cette notion semi-professionnelle avec les infrastructures qu'il faut. Mais ça m'a aidé, voilà, tout au long de mon parcours, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger où je suis passé, même au Mali quand j'ai été refoulé du désert de l'Algérie. Le sport m'a aidé à pouvoir m'intégrer déjà, parce que c'est un facteur d'intégration aussi. Et même si les équipes ne nous donnaient pas des gros revenus, mais cette intégration nous a permis de rencontrer des personnes qui ont pu m'orienter vers d'autres choses, qui ont permis d'avoir de l'argent et aider ma famille à rester au pays, quoi.
Votre parcours migratoire, vous disiez, vous avez vécu beaucoup de belles choses, mais beaucoup d'atrocités. Il a duré combien de temps?
Je suis parti en 2003 et j'ai fait 3 ans dans le parcours migratoire. Je suis arrivé aux portes de Ceuta et Melilla en septembre 2005. Voilà, nous n'avons pas pu passer. J'ai été arrêté au Maroc, comme d'autres migrants à l'époque. Il y a eu des vagues de rapatriement dans les pays d'origine. Et nous étions de ceux qui sont restés dans les cellules de refoulement et n'avons pas décliné nos nationalités. Donc ils ne pouvaient pas nous renvoyer dans un pays tiers, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et une nuit, ils nous ont refoulés vers l'Algérie. Et l'Algérie, on a passé des mois et des mois dans des prisons, qu'ils appellent aujourd'hui centres de rétention, jusqu'au sud de l'Algérie, en Tamaracette. Et en juillet 2006, on nous a déversés dans le désert malien, à près de 300 km de la frontière, en plein désert. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées. Moi, j'étais dans un groupe de 5 ans. Nous sommes arrivés à la frontière 13. Voilà. Et voilà, le Mali nous a accueillis en 2006, en juillet 2006. Et je suis resté au Mali jusqu'en 2012 où je suis venu m'installer en France. Et au Mali, j'ai créé donc cette association, voilà, qui s'appelle l'Association des réfugiés d'Afrique centrale au Mali. C'était en fait pour développer des techniques de solidarité et d'entraide entre tous les migrants qui arrivaient, parce que le Mali, de par sa position géographique, C'est un pays de passage, un pays de retour aussi des migrants bloqués, qui sont entre guillemets en transit, mais bloqués aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent ni avancer. Parce que la première frontière européenne aujourd'hui avec l'extérisation, c'est l'Algérie, c'est le sud de l'Algérie. Et ils ne peuvent non plus retourner dans les pays d'origine parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et parce qu'il y a le facteur de la honte aussi et le rejet familial. Parce que quand on est parti, en fait, on est des kamikazes. C'est la mort, parfois, c'est une délivrance. C'est pour cela, quand on se plaint de voir ces jeunes sur des barques dans la Méditerranée et autres, ils n'ont pas le choix. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a le facteur du rejet familial, la honte. Alors parfois, la mort, c'est une délivrance. Ils se disent, ben, je vais essayer. Si je meurs, au moins, je serai mort en héros. Au lieu de rentrer et m'infliger cette honte et ce rejet familial, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là aujourd'hui sur lequel nous voulons travailler avec l'association qui est au Cameroun, ben de faire comprendre aux parents qu'en fait, l'échec fait partie de la vie. On peut réussir, on peut échouer. Ce n'est pas parce que le fils du voisin a réussi et qu'il a pu envoyer de l'argent pour se refaire un peu une petite case que le deuxième aussi va, le vôtre aussi va réussir, quoi. Ça fait partie de la vie, quoi. Donc voilà, on est arrivé au Mali. Et avec d'autres migrants, on a monté dans cette association que j'ai présidée jusqu'en 2017, donc pendant 10 ans. Et cette association nous a permis de bâtir, d'avoir trois grands centres de formation, de trois grands centres d'accueil au Mali, au nord, à Kidal, à Gao et à Bamako, où on accueillait par mois 100 à 150 personnes qui avaient fait le même parcours que nous et qui, au lieu d'être abandonnés dans le désert, on allait avec le CICR et la Croix-Rouge malienne pouvoir les récupérer dans le nord et les acheminer vers les lieux vivables, notamment Bamako. Et autour de cette association, il y a des partenaires, voilà, financiers, la CIMAD, Médicaux International, Médecins du Monde France, plein d'autres partenaires, les Caritas, Internationalis, Caritas Mali, Caritas Innsbruck en Autriche, qui m'ont fait confiance parce que j'étais jeune, j'étais migrant sans papier. Et tout le monde pensait que j'allais me barrer avec la caisse, qui nous ont fait confiance et qui ont commencé financièrement à appuyer nos programmes, qui étaient entre autres l'accueil, hein. C'était l'accueil, l'écoute, permettre à ces personnes qui étaient sur le parcours migratoire de retrouver une maison, même si ce n'était pas la leur, mais un centre où ils pouvaient se reposer pendant une semaine ou pendant 2 semaines, quitte à eux de continuer après leur parcours. Mais dans nos centres, voilà, on leur donnait de quoi manger tous les jours. De quoi se vêtir, on les acheminait vers les hôpitaux et ceux qui désiraient vraiment et mettaient le souhait du retour vers leur pays d'origine, on les aidait à rentrer, quoi. Et c'est pour cela, dans le livre, j'ai écrit un chapitre qui est intitulé Agir pour exister. On n'existait pas. En fait, les gens nous voient, mais ils ne veulent pas compter avec nous. On passe inaperçu, même si nous sommes 40 auprès de 10 personnes. Ben, ils passent, ils peuvent même nous piétiner parce que nous sommes migrants, parce que nous sommes des personnes étrangères. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'autre. Moi, je vis dans le Gers depuis 2012. J'ai eu la chance d'avoir une compagne, Solange, une fille, Ambre. Et j'ai mes beaux-parents. J'ai des amis comme Xavier et tous ceux qui sont au village à Enyan ou à Castillon-des-Battes et tous ceux qui me connaissent dans le Gers. Ben, ils m'ont accueilli et je me sens chez moi. Et avec ces personnes, j'ai pu développer d'autres solidarités auprès d'autres personnes migrantes ou d'autres personnes même françaises qui sont dans l'extrême vulnérabilité. Je suis responsable départemental de l'aide à la personne au Resto du Cœur du Gers. Donc ça veut dire que je connais la misère française. Quand je me balade dans la quinzaine de centres que nous avons dans le département gersois, je vois des personnes qui viennent chercher de quoi manger. Ce n'est pas Mamadou, ce n'est pas Adama, ce n'est pas un Tamac, mais c'est des Français nés ici qui sont dans cette extrême vulnérabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les problèmes du Sud, on les retrouve aussi dans le Nord aujourd'hui. Il y a des pauvres partout, il y a des personnes qui ont besoin de perspectives partout, mais ceux-là ne doivent pas rester invisibles. On doit aller vers ces personnes, on doit compter sur ces personnes. On doit les aider à être acteurs de leur propre développement parce qu'en faisant cela, ils vont aussi contribuer à rendre la société dans laquelle nous vivons plus solidaire et plus forte qu'elle était avant.
Sébastien Combre, qu'est-ce que ça vous s'inspire, le témoignage de François-Henri Wendamag?
Oula, vous me prenez un peu au dépourvu. Là, c'est vrai qu'après un témoignage comme ça, c'est compliqué de réagir.
Il a dit quelque chose de fort. Il a dit que pour beaucoup de migrants, la mort, c'est une délivrance.
Oui. Mais en fait, je crois il me semble que c'était dans un contexte, la mort est une délivrance, parce que il y a le retour serait une honte. Serait une honte. Mmh. Et je crois pas, je pense qu'on a du mal à imaginer comment la honte, dans toutes les difficultés hein, que peuvent traverser les hommes et les femmes, que ce soit le handicap, la maladie psychique, la grande pauvreté et la migration, comment la honte est un vecteur puissant qui peut nous entraîner à de grandes bêtises. Parce que effectivement, l'association que vous avez montée, elle, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de travailler sur cette honte au village, quoi, pour que les gens ils puissent rentrer et qu'ils ne se tuent pas en Méditerranée et qu'ils puissent rentrer sans être victimes de cette honte dans le village. Et il y a peut-être toute une. Voilà, c'est la question des préjugés aussi, moi, qui me semble très, très prégnante dans le témoignage que je viens d'entendre. Tu es migrant, tu es noir, tu vas partir avec la caisse. Donc je te fais pas confiance. La question des préjugés qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir l'autre comme un frère et qui nous empêchent de faire confiance. Et finalement, ces préjugés, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied parce que finalement, on se passe. Dans notre société, dans notre église, dans toutes nos organisations, d'hommes et de femmes qui sont des hommes et des femmes qui ne sont pas là par hasard. S'ils ont eu un parcours de migratoire de 3 ans compliqué, c'est des gens qui sont solides. C'est des gens qui ont la niaque. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres des auto-entrepreneurs, des start-up, etc. Il y a beaucoup de migrants. Hein, c'est surproportionné par rapport à la population de migrants dans la population française. Parce que ce sont des gens qui savent ce qu'est le risque et qui savent l'assumer. Et c'est une chance pour notre société. Et on passe à côté. On passe à côté à cause de préjugés qu'on n'arrive pas à faire sauter. Voilà, les préjugés sont tenaces et il me semble que c'est la première chose sur laquelle on doit travailler individuellement et collectivement.
François Ramon Tamag, comment on peut travailler collectivement, individuellement sur ces préjugés? Vous n'êtes pas directement concerné, mais j'imagine que c'est quelque chose qui vous a énormément pesé, ces préjugés, que ce soit lors de votre parcours migratoire ou en France.
Ben déjà, il faut aller à la rencontre de l'autre.
C'est compliqué aujourd'hui dans notre société d'aller à la rencontre de l'autre.
Oui, je vous donne juste un exemple. Hein. Vous vous baladez dans la rue, vous êtes à voiture et vous avez une crevaison. Il n'y a personne qui s'arrêtera à vous donner un coup de main. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'étau se resserre sur tout le monde avec tout ce que nous vivons. Oui, c'est vrai, l'essence coûte cher, on n'arrive plus à faire ses courses. On est tous dans le même bain. Mais est-ce que ça doit faire de nous des animaux? Non, moi dans mon village, plus c'est dur, plus on est solidaire. Et c'est ça qu'on devrait comprendre aujourd'hui. Plus c'est difficile, plus il faut partager. Parce que quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Mais si tout le monde va au supermarché se prendre des bouteilles d'huile, il y en a 10 et les deux premières personnes qui vont prendre les 10, il y a 20 personnes qui vont arriver derrière qui n'auront pas. C'est dans le partage. C'est dans le vivre ensemble, c'est dans aller vers l'autre, discuter avec l'autre. Aujourd'hui, même les voisins du même palier, ils ne se rencontrent même plus sur le palier pour discuter, ils s'appellent au téléphone. Les gens ne se voient plus, il n'y a plus ce contact humain. Certes, il y a eu des périodes difficiles avec le Covid et autres, oui. Mais non, mais on ne doit pas s'empêcher de vivre. Il faut aller au contact de l'autre, il faut discuter, il faut savoir qui est l'autre. Mais c'est ça, c'est d'où naissent des préjugés. Parce qu'on s'imagine des choses dans sa tête qui ne sont pas vraies. On s'imagine, vous voyez, les médias et autres, parfois, voilà, quand il y a des images en boucle qui tournent, moi, je suis dans un département où il y a des villages qui sont très racistes, hein, qui votent encore FN, RN et autres, quoi. Mais ce n'est pas pour autant que je vais partir de là, parce que dans ces mêmes villages, il y a des personnes avec qui je discute, des personnes avec qui je participe à des repas, des personnes qui sont des amis. Mais voilà, mais il ne faut pas, lorsqu'on va vers quelqu'un, on apprend à le connaître. Et en fait, moi, je suis de ceux qui pensent que 1 plus 1 en relation humaine est égal à 1. Parce que j'ai autant de choses à vous apporter et vice-versa. C'est ça, quoi, la diversité. Et on a des cultures diverses. On a des choses diverses. On a tout intérêt à apprendre de l'autre. Et c'est ça Et c'est comme ça que nos civilisations futures ont été bâties. Si on continue à vivre comme ça, on va se détruire. Mais en fait, on va devenir des animaux, quoi. Donc, lorsque un est en agonie, eh bien, on le pousse dans le trou pour qu'il puisse mourir parce qu'on veut avancer. Et ce n'est pas comme ça, quoi. Il faut rester solidaire.
Je crois qu'il y a, on a, vous dites on a à apprendre les uns des autres. Je me dis, mais de ce témoignage, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Je vais retenir une chose, celle que vous avez retenir. Il y en a qui vont mourir et qui préféreront mourir. Alors, on ne meurt pas pour mourir. Hein, on meurt pourquoi? Et en fait, ça nous apprend, nous, ben, c'est quoi l'essentiel finalement? Et finalement, la vie en abondance, la vie sans la honte, la vie en relation avec les autres où on a une place, on est prêt à y laisser notre vie pour ça. Hein, les Ukrainiens, en ce moment, ils vont au front, ils ne vont pas mourir pour mourir, ils vont mourir pour quelque chose qui est plus large qu'eux, protéger leur famille, mais je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du collectif. Donc voilà, je crois qu'on a un peu perdu, là, vous le dites bien, hein, on a un peu perdu ce sens du collectif. On l'a un peu perdu, mais en fait, je crois que ça a toujours été inhérent, enfin, ça a toujours existé, hein, l'égoïsme, cet égoïsme. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, ça soit plus qu'avant. Hein. L'humanité a toujours connu cet équilibre entre une grande soif d'être ensemble, de vivre ensemble, et puis ce repli sur soi. Il y a un peu des phases dans l'histoire, effectivement, et on a tendance à imaginer aujourd'hui, avec une société très anxiogène, une sorte de repli sur soi, qui est nauséabond finalement, parce qu'elle nous empêche de construire l'avenir. Le repli sur soi, il est toujours dans l'immédiateté, quoi. C'est toujours, c'est moi et c'est maintenant. Hein, ça me permet pas d'aller plus loin. Et finalement, c'est moi, ma famille, mes enfants. Mais avec cette façon d'agir, avec cette réflexion-là, ben, c'est mes enfants qui en pâtissent. Parce que la société que je construis, c'est pas une société qui va vers l'avant, qui va de l'avant pour mes enfants. Et je vais donner en héritage une société... De la haine, une société où les gens ils se méfient les uns les autres, où c'est chacun pour soi, où il faut avoir des portes blindées, des armes de plus en plus, une sorte d'escalade du chacun pour soi qui mène à rien, quoi.
Je vous propose de faire une petite pause musicale, on revient dans moins de 4 minutes, on écoute À toi la gloire d'Aletheia.
Dire ce qui nous pèse, ce qui fait mal, quand les choses restent les mêmes, quand nos vies déraillent, c'est toi Jésus qui vient remporter nos batailles. Et si tout ce que tu promets apaise nos cœurs en secret, Seigneur, je redirai, tu es celui qui est la Dieu.
Comment décrire tout ton œuvre avec justesse, évoquer ton action pour combler toutes nos faiblesses, parler de tes œuvres pour le malheureux dans la détresse, la foi rejetée dans le cœur de celui qui te confesse. Vu l'ampleur de ta main dans ma vie, ta parole est vraie, tes promesses sont véritables et gages de succès. Des vies changées, des vœux consolés, abdiques déchaînés, des frères réconciliés.
You raise my life high. Yeah, yeah, I raise your name high. Yeah.
J'ai vu ta main opérer dans ma vie un impact concret. Me débarrasser pas à pas de tous mes excès. M'enseigner à me nourrir de ton bon lait. M'inculquer les valeurs de travail et tes bienfaits. Tu as le pouvoir de me délivrer de toutes mes chaînes. Tu as le pouvoir de chasser ma dépression, mes peines. You can always set me free, Jesus Christ. Breaking the end of the line in my life. You are my king. Tu as le pouvoir de chasser ma dépression, mes peines. You can always set me free, Jesus Christ. My king, you are my lord, Jesus Christ. Hey, feel my heart.
À toi la gloire.
You are my king, you are my lord, Jesus Christ.
À toi la gloire.
Vivante Église. Timothée Rouvière.
Et je suis toujours avec François Roméo Ntamag, ancien migrant naturalisé français et cofondateur de l'association des refoulés de l'Afrique centrale au Mali, et Sébastien Combre, délégué épiscopal à la solidarité. On dit quelque chose de très important juste avant la pause musicale, c'est qu'on apprend tous des uns des autres. Comment ça se concrétise, Sébastien Combre? Comment on fait pour apprendre des autres? Faut être ouvert déjà.
Oui,
faut déjà accepter d'apprendre.
Déjà, pour apprendre des autres, il faut écouter. Et pour écouter, il faut se taire. Ça, c'est le premier constat. C'est-à-dire que si on ne fait que parler, on n'est pas à l'écoute de l'autre. Ça, c'est le premier point. Après, là, on pourrait développer des heures sur ce sujet. Mais moi, il me semble qu'il y a deux axes. L'axe individuel et l'axe collectif. On a à apprendre de l'autre individuellement, dans la relation qu'on a avec l'autre. Hein, comme vous disiez tout à l'heure, avec vos voisins, les beaux-parents, etc., on apprend de l'autre. Il y a aussi, il me semble, dans les techniques d'animation collective, d'intelligence collective, comment on apprend collectivement l'un de l'autre. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas gommer les différences. Parce que si on arrive tous en disant « oui, on est tous pareils, on est tous frères, qu'on soit blanc, noir, jaune, on est tous, réfléchissons ensemble », ben on peut passer à côté de quelque chose. Je crois que c'est bon de célébrer nos différences pour vivre l'unité quelque part. Et qu'on peut apprendre de l'autre si on reconnaît que l'autre, il est différent, même collectivement. C'est-à-dire que, ben voilà, cette culture-là, la culture du Mali par exemple, il y a un Malien qui me disait par rapport au bonjour en France. Il me disait, mais moi je comprends pas, vous vous dites bonjour 15 fois par jour. Moi, c'est une fois qu'on s'est dit bonjour, c'est bon, quoi. Ça nous interroge et ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que pour nous ce bonjour, et ça permet d'aller plus loin. Dire que, en fait, on a dans nos cultures, qu'elles soient familiales, collectives, nationales, des choses qui sont tellement ancrées qu'on les comprend même pas. Et on arrive à les comprendre et à toucher du doigt, à donner du sens et à se dire pourquoi, parce que c'est confronté à quelqu'un d'autre qui a une autre culture. Et pour le coup, j'apprends de ma propre culture en la confrontant à la culture des autres. Voilà ce que je peux dire rapidement. On pourra en parler plus longuement. Mais voilà.
François Roméo, Ntamag, vous partagez l'avis de Sébastien Combre?
Ben oui, je pense que Sébastien a tout à fait raison, quoi. Moi, je peux pas. Je vous ai dit où je vis aujourd'hui. J'ai mon pays d'adoption aussi qui est le Mali, où j'ai passé pas mal d'années. Je continue toujours à aller au Mali. Je reviens d'ailleurs de là au mois d'août. Et mon pays d'origine qui est le Cameroun. C'est des cultures vraiment très différentes dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, quoi. Ce ne sont pas les mêmes zones géographiques et c'est des cultures différentes. Mais lorsqu'on a toujours tendance à dire, on dit l'Afrique. Sauf que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent, et que dans ce continent, il y a plusieurs pays qui ont des traditions différentes, qui ont des façons de voir des choses différentes, et où on ne s'exprime pas de la même façon, même ne serait-ce qu'au Cameroun, on a 288 ethnies, quoi. Donc, c'est pour dire, mais il faut accepter les différences de l'autre. C'est comme dans un débat télévisé, on le disait tout à l'heure, la meilleure définition, et là j'ai bien aimé, c'est ce que j'ai dit aussi, la meilleure définition du mot écouter, c'est se taire. C'est ça, quoi. Même dans un débat télévisé, les gens n'arrivent même pas parfois à s'écouter parce qu'ils parlent tous à la fois. Et parfois, ils disent même les mêmes choses. Mais sauf que, vu qu'ils n'arrivent pas à se taire et écouter l'autre, ils pensent qu'ils sont rivaux. Non, parfois, ils abordent dans le même sens sans le savoir. Mais moi, je pense que c'est ça. Si on veut aller vers les gens, il faut accepter leurs différences. Si on n'est pas prêt à accepter la différence, ça veut dire qu'on le fait pour sa conscience en soi. Ce n'est pas parce qu'on veut que les choses avancent, quoi. Moi, je ne viendrai pas vers vous en vous disant, ben oui, d'accord, j'aime tous ceux qui sont dans le Gers parce qu'ils sont comme ça, mais ceux de l'autre côté sont... Non, c'est pareil. Non, ce n'est pas ça, quoi. C'est, oui, mais vous le disiez tout à l'heure, celui qui va parler des Noirs en disant que les Noirs, ils sont frimeurs, autres et tout, il dit, ben moi, je suis noir. Il dit, non, mais pas toi, les autres. Non, ce n'est pas ça, quoi. Chacun a sa différence, il faut les accepter. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on bâtit les sociétés d'aujourd'hui. Quoi.
J'aimerais aborder un autre point qui me semble important. Il y a quelques années, le pape François a invité les chrétiens à regarder Jésus pour comprendre l'humiliation que vivaient les migrants aux portes de l'Europe, et pas uniquement aux portes de l'Europe. L'indifférence dont font preuve les migrants, c'est aussi ça le problème, ou en tout cas l'indifférence sur leur sort ou la manière dont ça peut être perçu, traité. C'est vrai qu'on en parle beaucoup à certains moments, mais des migrants, il y en a tous les jours, et des conditions atroces et inhumaines de migration, il y en a tous les jours, et pourtant, il y a des gens qui s'engagent, mais pas tout le monde. Pourquoi tout le monde ne se sent pas concerné, Sébastien Combre ?
C'est un grand mystère. Hein. Les choses font peur. Hein. Je pense qu'il y a des raisons. Quand vous allez aux Philippines et que vous donnez 5 euros, enfin une pièce à un enfant, vous vous retrouvez envahi de 15 enfants. Et puis on ne peut plus avancer. Donc on se dit, j'aurais pas dû donner la pièce et donc je donne plus rien. Peut-être que ça veut dire qu'il faut donner différemment. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des raisons concrètes, enfin des raisons un peu réelles, hein, d'avoir peur, hein. Parce que si on fait mal, on peut se faire mal, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, comme avec avec cette pièce aux Philippines, je veux dire, on peut agir avec tout notre cœur, avec plein de bonne volonté, et en faisant mal, et puis en blessant les gens. Et puis quand on blesse les gens, ben peut-être que les gens, ils peuvent être violents en face de nous, etc. C'est des histoires qui sont des histoires vraies, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir en aide, qu'il ne faut pas aller à la rencontre. Ça veut dire qu'il faut apprendre. Apprendre à rencontrer. Et comment on apprend à rencontrer, encore une fois, en étant à l'écoute. Et comment on est à l'écoute? En se taisant et en étant persuadé que celui que je rencontre a quelque chose à m'apprendre. Ça, c'est peut-être la clé, ça. C'est-à-dire que je vais à la rencontre de quelqu'un, pas pour l'aider, hein, mais pour apprendre de lui. Et je vous garantis, vu que dans le processus de honte, on a dit que c'était un vecteur puissant. Quand quelqu'un vient à ma rencontre parce que j'ai quelque chose à lui apprendre, la honte, elle saute, quoi. Et la relation, elle peut s'installer. Donc, je crois que c'est une clé, ça, se demander qu'est-ce que l'autre a à m'apprendre, qu'est-ce que je peux apprendre de lui, qu'est-ce qu'il veut bien m'apprendre de lui, qu'est-ce qu'il veut me donner de lui, et y croire. Croire concrètement, celui que je rencontre, celui qui est en face de moi, il a quelque chose à me dire. Mais ça rejoint, vous parliez de Jésus, un passage précieux dans l'évangile, dans Matthieu, au chapitre 11, verset 25. Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux savants, de l'avoir révélé aux tout petits. Le royaume de Dieu a été révélé aux tout petits, et il a été caché aux sages et aux savants. Et cependant, je te loue, Père. Pourquoi on louerait pour quelque chose qui nous a été caché? Parce que si on se met à l'écoute des plus petits, ça nous sera aussi révélé. Donc ça va jusqu'à là, quoi. Le royaume de Dieu a été promis, donné aux petits. Un migrant qui se fait humilier, qui meurt dans le désert, etc. Si ce n'est pas un petit, je ne sais pas ce que c'est. Le royaume de Dieu, lui, a été donné, lui a été révélé. Et si je me mets à l'écoute, il me sera aussi révélé. Et là, on pourra dire « Je te loue, Père ».
François Rambeau-Bentamag, une réaction sur ce qui vient d'être dit ?
Je pense que le fait qu'on soit à l'émission tous les deux, c'est parce qu'on aborde dans le même sens. Et je me retrouve pleinement dans ce qu'il dit aussi. Nous sommes migrants,
Certes, d'aucuns diront, ils nous sont petits et tout, mais oui et non. Dans la mesure où, voilà, on fait partie d'une société où on est capable de beaucoup de choses. Moi, j'ai coordonné ce centre au Mali pendant 10 ans. Et j'ai rencontré des professeurs d'université qui arrivaient dans le centre. Des ecclésiastiques, des personnes qui auparavant avaient de très très bonnes situations, ou qui étaient des docteurs et autres. À un moment donné, au jour au lendemain, tout s'est cassé la gueule, ils ont voulu partir, mais clandestinement, ou à travers des voies autres qu'en prenant un visa ou quoi que ce soit. Donc, même dans ces petits rangs-là, on arrive à trouver des personnes qui peuvent apporter aussi quelque chose intellectuellement, qui peuvent apporter quelque chose aussi manuellement et autres. Mais en fait, le tout, c'est de les écouter. Le tout, c'est de considérer et de voir qu'en fait, ces personnes existent. C'est tout simple. Si on arrive à se rendre compte que ces personnes existent, on fera avec elles. Mais on n'arrive pas à faire avec elles parce qu'on ne veut même pas savoir qu'elles sont là. C'est le véritable problème aujourd'hui. Parce que vous parlez de tous ces migrants qui continuent à mourir dans la mer ou dans le désert. Mais il y en aura tous les jours. Il y en aura tous les jours. Par rapport à tout ce que nous savons qui se passe dans le monde, que ce soit les guerres, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit plein d'autres choses, que ce soit même la misère profonde dans certains pays arides aujourd'hui, on n'arrive plus à cultiver, parce que ça part parfois des villages. C'est cet exode rural qui amène des gens vers des villes. Et lorsqu'il vient gonfler déjà le nombre de personnes qui sont dans les villes, il n'y a plus de place pour tout le monde et on va chercher chez le voisin. Et lorsqu'on arrive chez le voisin, on se rend compte que la situation est pire que celle que nous avons laissée en ville ou dans notre propre village. On va plus loin et finalement on bute aux portes de l'Europe. La chose, c'est, je reprends le cas de la pièce donnée aux Philippines. On fait des choses. Tout le temps, on est en train de dire qu'on fait les choses, mais est-ce qu'on les fait bien? Je pense que si on les faisait bien, avec des personnes adaptées, il y aurait beaucoup de solutions qui seraient déjà trouvées. Mais est-ce que ce n'est pas une volonté aussi de faire mal?
C'est fort ce que vous dites.
Ah oui. C'est ça le problème. Je le dis tous les jours. Il ne suffit pas de dire, j'ai donné une pièce, je reprends l'exemple. Et j'ai eu beaucoup d'enfants qui sont venus autour de moi dont je ne donnerai plus. Il ne suffit pas de dire, j'ai aidé ces personnes dans ces pays, mais pourquoi ils continuent à venir? Est-ce que l'aide qu'on apporte, elle est adaptée? Est-ce qu'elle va vers les personnes qu'il faut? Est-ce qu'elle est orientée vers des groupes cibles? Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté à mal distribuer cette aide pour qu'il y ait plus en plus de choses pour continuer à médiatiser ou à faire autre chose? Ces points d'interrogation, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat parce que là, il serait plus grand. C'est ça donc le problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'on se rejoint sur plusieurs sujets. Voilà.
Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, peut-être. En tout cas, ce que je suis persuadé, c'est qu'il y a une méconnaissance totale, quoi. Il y a une méconnaissance totale, on ne sait pas faire. Et pourquoi on ne sait pas faire? Parce que ceux qui savent faire, ceux qui sauraient, ceux qui ont les clés, on ne les écoute pas. Je veux dire que...
C'est qui a les clés?
Eh bien, c'est les migrants eux-mêmes. Si on veut, admettons, se dire, ben, si on veut que les Maliens ne viennent plus en France, il faut aider le Mali. Ben, il faut aider le Mali, il faut peut-être écouter ce que le Mali a besoin, avec les Maliens eux-mêmes. Parce que
ils sont directement concernés.
Parce que oui, parce que si on y va nous-mêmes pour dire ils ont besoin d'électricité, on construit une centrale nucléaire avec nos revenus, avec nos trucs, et puis on reste sur place, est-ce que c'est vraiment de ça qu'ils ont besoin? Et puis voilà. Et puis si c'est nous qui gardons l'emploi sur place, enfin bon, il y a quelque chose qui est pas du tout adapté parce que on n'est pas à l'écoute de ce que les gens, ceux qui savent, ont à nous dire, parce qu'on ne croit pas que c'est possible qu'ils aient quelque chose d'utile à nous dire. Encore une fois, un préjugé quoi. Tu es noir, tu es chef d'association, enfin tu es président d'une association. Si je te donne de l'argent, tu vas partir avec la caisse, quoi.
Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des programmes qui sont développés, mais qui ne sont pas adaptés aux groupes cibles. Voilà, c'est ça la question aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas... moi, aujourd'hui, je suis là et je vis en France. Je sais que dans mon village, là, je suis en train de vouloir initier avec l'association qui est au Cameroun et aussi dans le Gers, Bodnem 32, une ferme agro-pédagogique dans mon village d'origine. Mais je ne vais pas prendre un tracteur pour ramener là-bas. Parce que j'ai créé un autre besoin auquel je ne pourrais pas répondre. Il faudra former quelqu'un pour conduire ces tracteurs. Et lorsqu'il sera en panne, où est-ce qu'on va trouver les pièces? où est-ce qu'on trouvera l'argent pour le repas. C'est-à-dire, avant de mener un programme, il faut s'adresser aux personnes mêmes. Oui, aujourd'hui, nous, migrants, nous dérangeons, entre guillemets. Mais si ceux qui pensent être des savants veulent solutionner, entre guillemets, ce qu'ils appellent problème, parce que moi, je pense que nous ne sommes pas un problème, tout au contraire, ben, il faut s'adresser aux migrants. Il faut s'adresser aux personnes même qui vivent dans ça. Il faut s'adresser aux personnes qui sont sur le terrain. Avec ces personnes, développer des programmes qui sont adaptés à eux. C'est ça la véritable question aujourd'hui.
C'est la clé.
C'est la clé, quoi.
Je vous propose qu'on...
Faire pour les gens. Dire. Faire pour les gens, oui. Faire avec eux, c'est encore mieux. Et à partir d'eux, c'est la clé.
Et on restera sur cette phrase pour clôturer cette deuxième partie d'émission. On va écouter une musique, Je crois en toi, de Didier Barbelivien, qui illustrera très bien ce qu'on vient de dire.
Même si tes églises ont vieilli parfois, si la poussière grise recouvre tes bras, donnez ma chemise, donnez comme toi. Même si les temps changent, toi ne change pas. Garde-moi un ange pour guider mes pas dans ce monde étrange, plus bas qu'ici-bas. Moi je crois en toi sur ta croix, les enfants des signes de croix, et je crois. La croix, fils de Dieu sublime, crucifié, pourquoi? Même si la nuit tombe sur la nuit des rois, et que sur les tombes, c'est toi que je vois, même quand tout s'effondre, je garde la foi. Même ceux qui sont pauvres, même ceux qui ont froid, dans la lumière mauve, le chante avec moi. Même si tout se sauve, toi tu restes là. Moi je crois en toi sur ta croix, des prières intimes montent jusqu'à toi, et je crois en toi sur ta croix, dans le ciel splendide, souvent je te vois. Moi je crois en toi sur ta croix, les enfants dessinent des signes de croix, et je crois en toi sur ta croix, fils de Dieu sublime, crucifié, pourquoi?
Église, Timothée Rouvière.
Et j'ai le plaisir toujours d'être avec François Roméo Ntamag, ancien migrant naturalisé français et cofondateur de l'Association des Refoulés de l'Afrique centrale au Mali, et Sébastien Combre, délégué épiscopal à la solidarité. Avant d'oublier d'en parler, parce qu'on n'a pas du tout parlé, François Roméo Ntamag, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Mon chemin de migrant », un récit. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Mais j'ai voulu, voilà,
En écrivant ce livre, j'avais un objectif en tête. C'était pas pour avoir le best-seller ou alors avoir le Goncourt. Et c'était déjà pour parler de ma vie. Voilà. Parler de ma vie, de ce que j'ai vécu. Parler aussi de toute la solidarité que j'ai eue tout au long de mon parcours migratoire. Et de ce que vivent aussi les migrants. Parler de ce rejet familial. Du fait aussi que parfois, on voit juste lorsqu'ils ont réussi. Mais sauf que c'est des personnes qui parfois pendant une dizaine d'années, voire 20, ont des choses terribles qui arrivent à leur vie, des troubles psychologiques sur lesquels ils ne pourront jamais revenir. Et pour finir, au niveau de l'épilogue, je voulais aussi adresser une lettre à ma mère. Parce que je suis parti du Cameroun en 2003. Même si pendant plusieurs années après, je pense notamment lorsque j'étais déjà au Mali dans les années 2008 et 2009, j'arrivais à gagner un peu d'argent pour pouvoir le travailler, pour qu'elle se soigne et payer la scolarité de mes frères. Je n'ai plus revu ma mère. Je l'ai revue en 2017 dans un cercueil parce qu'il y avait ça. Je n'avais pas réussi, en fait. Les gens pensaient, pour les gens, j'avais réussi. Mais l'idée de base, c'était revenir. On vivait dans une maison qui était délabrée. C'était revenir et essayer de rebâtir la maison pour qu'il ne pleuve plus sur elle et sur mes frères. Mais le peu d'argent que je pouvais gagner, ça servait à la soigner. C'était en fait une action invisible pour certaines personnes qui s'attendaient peut-être à avoir l'action visible qui était de refaire la maison. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont toujours au sein de la famille reproché, mais ils ne savaient pas réellement ce que nous vivions au niveau de la maison avec la maladie de ma mère. Donc au niveau de l'épilogue, je lui adresse aussi une violente lettre parce qu'elle a plusieurs aspects. Je m'excuse déjà de ces faits-là, de n'avoir pas pu lui donner ce toit. Et d'un autre côté, je l'en veux aussi, ainsi qu'à mes frères, parce que lorsque j'étais dans des prisons en Algérie, au Maroc, ou lorsque j'étais dans des situations critiques, de désespoir, affamé ou parfois battu, et que j'arrivais à trouver une pièce d'argent pour composer le numéro de téléphone et appeler, ce qu'il me renvoyait, en fait, c'était la situation d'échec dans laquelle j'étais. La première question qu'elle me posait, c'est « T'es dans quel pays ? Tu es où ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Et lorsque je disais, par exemple, « Je suis encore en Algérie » ou « Je suis encore au Maroc » ou « Je suis encore au Mali », les 30 secondes de silence qui suivaient voulaient tout dire. En fait, elle était déçue du fait que je n'ai pas pu réussir en ce moment comme peut-être le fils du voisin ou le fils de, ou un enfant d'un quartier environnant. Mais ça, je le recevais comme un coup de poignard. Et ça, je n'ai jamais oublié. Et ça, je n'ai jamais pu le dire à ma mère. Donc ce livre aussi m'a servi à le lui dire, même si elle n'est plus là aujourd'hui, et à transmettre ce message à certains parents pour leur faire comprendre qu'en fait, l'échec fait partie de la vie. Donc, il a été publié aux éditions Priva le 26 mai dernier, Mon chemin des migrants. Il est dans toutes les librairies, hein. Tout le monde peut l'avoir. Et en fait, c'est ça. C'est pour cela que je l'ai écrit.
Il nous reste 5-7 minutes d'émission, ça passe très vite. J'aimerais qu'on aborde un dernier aspect, c'est la peur que beaucoup de personnes peuvent avoir vis-à-vis des migrants. Comment on peut l'expliquer, Sébastien Combre?
Je crois qu'on apporte la différence. Et puis après, on se donne des prétextes. On pourrait penser au bon samaritain. Un homme qui est tombé à cause de brigands. Et puis là, il y a un docteur de la loi, un lévite, un prêtre. Enfin, les gens y passent. À chaque fois, il y a des prétextes. Soit c'est la religion, je vais être pas pur, j'ai pas que ça à faire, etc. Mais je crois que c'est les prétextes, finalement. Ce qui nous fait peur, c'est la différence. On n'a pas envie. Et puis peut-être aussi être un peu centré, trop centré sur soi. Le bon samaritain a été pris de compassion. Voilà. Peut-être que ce qui nous manque, ce qui manque à notre monde, c'est la compassion. Voilà. Peut-être n'avons-nous pas assez de compassion les uns envers les autres. qu'est-ce qu'on fait pour... Moi, je me dis, peut-être, parce que peut-être que les gens qui vont partir, ils vont se dire, mais qui écoutent l'émission, là, ils se diront, mais une clé pour rencontrer. Moi, je vous donne une clé assez simple. Quand vous avez un trajet à Toulouse, par exemple, si vous êtes à pied, vous savez que vous devez aller d'un point A à point B et qu'il vous faut 20 minutes, prenez 35-40 minutes et prévoyez ça. Si vous arrivez un quart d'heure avant, tant mieux. Si vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous pourrez discuter, vous aurez un quart d'heure. Si vous êtes ric-rac, ben vous ne pourrez pas prendre ce quart d'heure. Et ça nous permet de se donner du temps à la rencontre. On a des vies qui sont millimétrées. Rien n'est prévu pour l'imprévu. Le bon samaritain, il n'avait pas prévu. Hein. Rien n'est prévu pour l'imprévu. Donc peut-être qu'il faut prévoir l'imprévu. Voilà, se dire, ben voilà, peut-être qu'il va y avoir sur mon chemin une rencontre, quelque chose qui va me, quelqu'un qui va me changer mes habitudes, et ça sera positif pour moi, ça sera bon pour moi, et prendre ce temps de la compassion et de l'inattendu. Bon, c'est un beau conseil, je sais pas, pour aborder les quelques jours quelques jours là, avant cette journée du migrant qui aura lieu dimanche, là, dimanche qui arrive.
François Hormoen Tamag, le mot de la fin.
Ben, le mot de la fin...
S'il y a quelque chose que vous devrez, de votre parcours, de votre histoire, vous dites aussi dans ce livre, Mon chemin de migrant, s'il y a quelque chose à retenir, un message que vous devriez faire passer. On parlait de l'ouverture, d'être prêt à accueillir la rencontre, à accueillir l'inattendu.
Ben, moi, je parlerais toujours en proverbe, hein, je parlerai avec un proverbe, hein. Une seule main n'attache pas un paquet. Il faut qu'on soit toujours ensemble. C'est ça, c'est ce que j'ai dit aussi. Dans mon parcours, je ne suis pas là parce que je suis le plus fort ou le plus intelligent. Je suis parti, comme des milliers d'autres personnes qui partent de partout, pas que de l'Afrique, hein, qui viennent de tous les pays, pour aller d'un point où ils se sentent en insécurité vers un point où ils sont en sécurité, où ils peuvent aller chercher la vie, comme on le dit. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut aller vers les gens. Il faut discuter avec les gens. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Les différences de l'autre peuvent combler les vides que nous avons en nous. Et moi, je sais que j'ai comblé les miens en restant dans le Gers, en rencontrant les personnes que je rencontre tous les jours. Et c'est toujours bien pour moi de faire de nouvelles rencontres parce que j'apprends tous les jours. Et il faut qu'à un moment donné, voilà, qu'on se pose, qu'on ait le temps pour d'autres choses que celle que nous faisons au quotidien, parce que voilà, on est tout le temps en train de courir, mais on n'a qu'une seule vie, et il ne faudrait pas qu'on se dise qu'un autre jour qu'on était passé à côté.
Et la vie est faite de rencontres.
Et la vie est faite de rencontres, parce que c'est ça la première richesse aussi,
et les relations humaines. Et on terminera là-dessus, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu positivement à mon invitation. Tout de suite, on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité. Timothée Rouvière.
Débutons cette église actualité avec un pèlerinage international à Lourdes. Il est organisé à partir de demain et il est à destination de tous ceux qui sont concernés par la maladie, adultes comme enfants, et à vocation à rompre l'isolement. Information sur lourdes.cancer.espérance@wanadoo.fr. lourdes.cancer.espérance@wanadoo.fr. De son côté, le diocèse d'Albi organise un pèlerinage en Jordanie et en Terre Sainte. Début du pèlerinage demain, il se termine 10 jours plus tard. Renseignements au 07 81 49 74 93, 07 81 49 74 93, ou auprès de pelealbi@gmail.com, pelealbi@gmail.com. De son côté, l'ensemble de la communauté éducative de l'enseignement catholique du Tarn, les élèves et leurs familles sont conviés à une messe de rentrée. Au cours de cette messe, les nouveaux chefs d'établissement recevront une lettre de mission des mains de l'évêque. La messe a lieu en la cathédrale Saint-Alain à Lavaur à 18h. C'est la fin de cette église actualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre radio. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités dans votre région. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Et c'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à mes deux invités encore une fois d'être venus partager ce moment avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre radio. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre radio.